Bonjour, ici Radio Grand Ciel. Nous recevons aujourd'hui M. Claude Ney, qui a œuvré pendant beaucoup d'années dans une grande entreprise dunoise, qui a été un fleuron international, qui s'appelait l'entreprise à l'origine Picard Lebas. Donc nous allons parler de cette entreprise, mais avant, nous allons parler de l'historique un petit peu de ce téléphone, parce que aujourd'hui, la téléphonie s'est devenue indispensable dans la vie de notamment des jeunes et des moins jeunes. Mais encore faut-il savoir que la téléphonie, contrairement à ce qu'on peut croire, n'a pas été inventée par les Américains ou les Anglais. En 1854, Charles Boursel, du ministère des Postes, invente le téléphone. Mais sa hiérarchie considère que cela n'a absolument aucun intérêt et on range ça dans un tiroir. Fuite ou pas fuite, Graham Bell dépose un brevet le 14 février 1876 à 14h. Et Eliza Hay, un autre brevet, pratiquement identique à 16h. Alors, lequel est lequel? Évidemment, Graham Bell a 2h d'avance. L'État français suit le démarrage avec scepticisme. Ce qui n'empêche pas Jules Verne d'écrire dans 500 millions de la Bégum, le maire de Franceville réunit son conseil municipal sans que les conseillers se déplacent, tout ça avec un téléphone. Alors aujourd'hui, on parle du distanciel. Présentiel, distanciel, c'est la mode. Eh bien, Jules Verne l'écrit déjà au 19e siècle. Le maire de Franceville réunit son conseil en audioconférence. Extraordinaire quand même. En 1883, Rothschild équipe sa banque, son hôtel et son château. Il y a déjà quand même plus de 1500 abonnés en France. En 1898, au Havre, un touriste venu de Châteaudun, qui s'appelle Lebas, va rencontrer dans une banque un nommé Picard. Et que vont-ils faire? Eh bien, je vous le donne en mille. Une société de construction de téléphones qui s'installe à Paris et présente en 1903 le premier poste Picard Lebas. En 1889, Jules Verne, dans une nouvelle baptisée « Une journée d'un journaliste américain » en 2889, écrit « Sur la table, il y avait un téléphone et à côté une machine avec des images en mouvement. » Alors, était-ce le téléphone plus la télé ou déjà Internet? Un autre, Marcel Proust, écrit dans un de ses romans « Ma belle-sœur passe ses commandes par téléphone et se fait livrer à domicile. » Mais c'est quoi ça? C'est Amazon. Vous voyez, on est au 19e siècle. Alors, cette rencontre, Picard Lebas, ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner une entreprise qui va se développer de façon importante à Paris. Mais en 1917, le ministère demande à l'entreprise d'aller se mettre à l'abri de la Grosse Bertha. Et M. Lebas propose Châteaudun. Et c'est accepté sur le site de la Bossière, la chapelle des Templiers, fondée en 1190, où on disait encore des messes à la fin du XIXe siècle. Et à cela, il ajoute l'ancien atelier de l'Ossoda. En 1927, c'est 400 employés qui fabriquent des téléphones. Mais il n'y en a plus que 110 en 1930, parce que la crise de 1929 est passée par là. Ça va se rétablir tout doucement, mais en 1940, il faudra travailler pour l'allemand Siemens. Contrainte, réquisition. Et la guerre étant finie, Max Lebas revient de captivité et rapidement va se structurer l'entreprise avec l'embauche de M. Richard, qui deviendra sa tête pensante de la maison pour près de 40 ans. C'est l'année, pratiquement ce sont les années, où on va voir arriver, rappelez-vous, le téléphone U43, le 22 Asnières, Monsieur Ney, ça vous dit quelque chose, le 43 ?
J'ai à peine connu le U-43, puisque je suis arrivé un petit peu après. Moi, je vais surtout pouvoir vous parler des années 60, 70, 80, 90 et jusqu'à l'an 2000.
Ah donc, vous êtes arrivé pratiquement dans cette entreprise qui avait déjà donc équipé quand même des hôtels comme le Prince de Galles, etc. C'était pas une entreprise de seconde zone quand même, Picard Levas. Hein. Et donc, vous êtes arrivé déjà quand Henri Depape avait redressé la barre. Parce que il n'y avait plus que 38 employés en 1952. Et donc, à ce moment-là, l'usine de Châteaudun était quand même bien malade. Alors, on va redresser la barre. Monsieur Depape met les moyens. C'est un homme énergique. Il va se trouver face à une demande forte de la téléphonie. Et cette demande forte, évidemment, nécessite de la main-d'œuvre. Et on ne la trouvera pas forcément à Châteaudun. Mais on trouvera quand même des techniciens, des ingénieurs dont vous faisiez partie. Et à partir de ce moment-là, on a vu l'entreprise prendre son élan. Alors, racontez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 68 ?
Oui, effectivement, je suis arrivé à ce qu'on peut appeler l'âge d'or du téléphone, puisque je suis arrivé en 1968 et il y avait 375 personnes exactement quand je suis arrivé. Et effectivement, 4 ans plus tard, on avait dépassé le millier. Donc l'expansion était formidable. Tout ceci grâce à l'arrivée du PL67, un intercom moderne à l'époque, puisque basé à l'électromécanique. Et tous les systèmes étaient en train de basculer en électromécanique, alors qu'avant, on était plutôt resté sur du filaire. Donc, explosion de main-d'œuvre, bien sûr, sans avoir besoin de grande technicité, à part quelques techniciens en électromécanique et ingénieurs, qui étaient très peu nombreux à l'époque. Mais ça suffisait, puisqu'on partait à la rigueur d'un rouleau de tôle pour fabriquer un poste entièrement fini, contrairement à ce qui va se passer dans les années suivantes.
Donc, dans les années suivantes, évidemment, vous allez avoir besoin de, comme je le disais tout à l'heure, de main-d'œuvre, de matériel, d'espace, vous aurez besoin de plein de choses. Parce que 68, bon, alors, vous avez connu, tout le monde a connu le mouvement de 68 qui a paralysé un petit peu l'industrie française. Mais après, c'est reparti. Et quand c'est reparti, bon, vous étiez un peu à l'étroit quand même dans ce. Et Picard Levas, c'était un peu à l'étroit dans ce fond de vallée-là. Alors donc, on a poussé les murs. Qu'est-ce qu'on a fait là, dans ces années-là ?
Alors, on a fait deux choses. On a voulu construire une nouvelle unité, bien sûr, puisque celle-ci étant trop petite, vu l'expansion, on fabriquait des milliers d'intercoms. Donc, il n'était plus possible de travailler dans ces conditions. Alors, on a traqué les gros travaux. On a demandé à détourner carrément le Loir. C'était quelque chose de colossal. Et on a construit une nouvelle unité de plein pied pour être plus à l'aise. On a réussi à mettre 1000 personnes dedans et malgré tout ça, c'était encore insuffisant. On est obligé d'aller réquisitionner des établissements à Cloyes pour faire une deuxième unité de production. Et là, on était arrivé au maximum à environ 1200 personnes.
Bien, mais on va faire une petite pause musicale parce que ça fait beaucoup de monde à gérer. Nous reprenons notre cheminement dans la vallée du Loir auprès de cette chapelle des Templiers qui abrite donc une unité de téléphonie moderne. Et vous disiez justement, à partir de 68, on va beaucoup se développer. Et c'est là qu'on avait arrivé, je crois, à Châteaudun, de jeunes Yougoslaves. Et comment ça s'était passé ? Comment on a fait pour amener 60 personnes Comment s'était passé ça?
Alors, devant l'évolution du téléphone et des capacités à produire, Monsieur Lebas a été amené à aller en Yougoslavie à l'époque, suite à des informations, pour réquisitionner du personnel sur place pour essayer de pallier ce manque de main-d'œuvre dunois, ce qui était critique. Et effectivement, on a vu arriver une cinquantaine de personnes d'origine yougoslave, arriver, disons, dans des conditions difficiles, puisqu'ils avaient un tout petit bagage à l'arrivée. Il a fallu les loger, s'occuper de tout pour pouvoir les faire travailler. Et évidemment, personne ne parlait un seul mot de français. Donc, on a travaillé avec des dessins pour pouvoir arriver à les incorporer à la fabrication.
Et elles n'avaient pas de formation particulière en téléphonie?
Absolument pas, mais enfin bon, comme à l'époque, la partie téléphonie était encore rudimentaire au niveau tâches, c'était pas des tâches très techniques, on pouvait incorporer ces gens-là, chose qui va être beaucoup plus difficile plus tard avec l'arrivée de l'électronique.
Oui, parce qu'on raconte que M. Lebas, à l'époque, avait eu un peu de mal, parce que c'est méchant, peut-être, ou pas gentil, mais c'était du deuxième choix, parce que Siemens était passé avant, il avait embauché 6000 personnes en Yougoslavie. Et quand M. Lebas est arrivé, on lui a dit, vous arrivez un petit peu tard. Et donc, amener ces jeunes femmes, qui, pour la plupart, sont restées dans le Dunois, vous en avez certainement eu dans vos ateliers, de ces jeunes femmes qui sont restées très longtemps, non ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était des personnes qui avaient envie de travailler, qui travaillaient très fort. Il n'y avait pas de problème pour les faire travailler. Et puis, on manquait toujours de main-d'œuvre. Donc, en 1976, on a récupéré, entre guillemets, des Chiliens.
Vous avez récupéré ?
On avait récupéré des Chiliens pour venir travailler à l'époque où les choses étaient pas politiques étaient difficiles au Chili. Donc, on avait une vingtaine de Chiliens qui étaient arrivés.
Donc, on avait une usine internationale ?
Presque.
Presque.
Et on avait même des techniciens hongrois.
Alors là encore, quand je dis international, je suis même laissé dire qu'à une époque, on avait embauché un Hongrois.
Tout à fait. C'était d'ailleurs mon patron de l'époque, quand je suis arrivé, qui était ingénieur radio. C'était un Hongrois qui venait de sa Hongrie natale, qu'il avait dû quitter suite aux événements de 1956. Et il était resté à Châteaudun. Il avait exercé en tant qu'ingénieur radio.
On peut dire son nom, c'était Monsieur Bourbély.
Tout à fait, Monsieur Bourbély, exactement, pour le prononcer en hongroise.
C'était un très brillant ingénieur télécom. Et on a bénéficié un petit peu de la maladresse, et plus même de la violence des Russes, pour obtenir certains Hongrois dans le monde occidental qui avaient du talent, quoi.
Oui, tout à fait. C'est lui qui a commencé à mettre en place les premiers bancs de test, puisque personne n'était vraiment techniquement fait pour ce genre de métier.
Mais le bâtiment où se situait ce bureau d'études administratives, il était déjà construit, ce bâtiment ?
Oui, tout à fait. C'était un bâtiment qui existait depuis très longtemps. Et on était justement à l'origine seulement dans ce bâtiment-là. Et évidemment, il ne pouvait pas contenir 1000 personnes. C'est pour ça que l'unité 2, entre guillemets, a été construite au bord du Loir.
Mais pourquoi cette entreprise avait-elle conservé, par exemple, et fait de la chapelle un atelier de menuiserie ?
Parce qu'à l'époque, le téléphone était surtout fait avec du bois, du fer et du bois. Donc, avait fallu bien essayer de se débrouiller pour arriver à loger toutes ces activités qui ne pouvaient pas être montées en deuxième étage ou au troisième étage du bâtiment.
Oui, c'est vrai que les télécoms, à l'époque, ils avaient tendance à faire 1923, 1943 et 1963. Et ils avaient donc tendance à parler avec des trois.
Tout à fait, mais après, la technique a évolué beaucoup plus vite.
Alors justement, à cette époque-là, vous avez fait, je crois, du S63, ce qu'on appelait donc.
Oui, c'était le poste moderne à l'époque, là, le fameux S63 que tout le monde a connu sur son bureau ou dans sa maison.
Le crapaud gris.
Tout à fait, mais ça restait toujours de l'électromécanique.
C'est vrai qu'il y avait eu un pas important entre le téléphone bakélite noir, le U43, avec une pédale où on appelait l'opératrice, encore dans les années 75 dans notre région. Pour bien se rappeler qu'en 75, 78, on avait encore des U43 dans certains villages. Okay. Et on servait de la pédale pour appeler l'opératrice. Et le 22 à Nières, c'est une image, oui, mais elle existait dans notre contrée.
Oui, la pédale, comme vous dites, Jean-Claude, c'était la pédale pour une magnéto, pour actionner une magnéto, pour avoir l'électricité sur ses postes.
Alors, justement, ensuite, vous avez eu donc, ce que vous appelez donc, le modèle 63. Et qu'est-ce qu'il avait, lui, de particulier, techniquement ?
Alors, il pouvait travailler des autocoms, puis il était indépendant, qu'on n'avait plus besoin de cette magnéto, il suffisait de décrocher, il était alimenté par batterie, et puis on était tout de suite connecté.
Alors, vous avez fait du cet appareil 63, vous avez également donc, fait de l'intercom, donc ce que vous appelez du DEP.
Avant de passer au DEP, on a eu l'intermédiaire, le PL67, et c'est ce qui a surtout fait décoller les établissements Picard-Lebas, puisqu'ils ont commencé à avoir les premiers marchés d'État, le marché PTT, avec des milliers de postes à fabriquer, ce qui a permis d'avoir cette expansion formidable. Le DEP est arrivé beaucoup plus tard, il est arrivé vers les années 73-14.
Très bien. Bien, nous allons refaire à nouveau une petite pause avant d'arriver dans les temps plus modernes. Alors nous reprenons notre voyage dans le temps et nous allons arriver dans les années 75-80 qui sont des années charnières pour l'entreprise Picard et Lebas. Donc parce que dans ces années 75-80, c'est la fin, on peut dire, de l'électromécanique. Donc qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là, la fin de l'électromécanique ?
Oui, effectivement, l'électromécanique a fini de vivre jusqu'à la fin des années 70, début 80. Mais à partir des années 80, il y a eu une rupture technologique, carrément une rupture technologique, et qui a vu arriver l'électronique dans un premier temps. Parce que les ruptures technologiques, il y en aura d'autres malheureusement derrière. Ouais. Donc, partant de là, l'électromécanique, qui employait beaucoup de main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre avec pas une grande qualification, s'est trouvé confronté à l'évolution technique avec l'électronique qui est arrivée. Et pour un titre d'exemple, par exemple, pour fabriquer un poste électromécanique, on avait beaucoup de fils. On arrivait avec 50 paires de fils. L'électronique est arrivée avec 3 paires de fils. Donc vous voyez immédiatement les conséquences sur l'emploi, sur les câbleuses, les soudeuses, enfin tout ce genre de personnes qui étaient impactées. Donc il a fallu diviser la main-d'œuvre par 4 ou 5.
Oui, donc là, c'est justement, c'était des moments difficiles parce que il y a eu l'arrivée, bon, qui était déjà un petit peu sous-jacent dans les années 75-80, d'un repreneur éventuel, parce que évidemment, il fallait beaucoup d'investissement pour continuer dans ces marchés, et on le verra plus tard. Ça a été des marchés tellement importants qu'il n'a pas été possible aux entreprises françaises de suivre. Mais donc à cette époque-là, déjà, un repreneur va arriver sur Châteaudun, et pas n'importe lequel, parce que c'est Jean-Luc Lagardère, donc qui arrive avec ce super nom, Matra. Alors là, évidemment, on pense que c'est presque le Messie, Matra, c'est extraordinaire. Jean-Luc Lagardère à Châteaudun. En réalité, il ne viendra jamais à Châteaudun. Mais donc, Matra va investir dans TPL. C'est la mutation technologique, en fin de compte.
Oui, tout à fait. C'est là qu'arrive la grosse rupture technologique, puisque Matra et la mécanique, non, c'était pas son domaine. Hein. Il arrivait avec des ingénieurs, l'électronique, et il fallait absolument s'adapter. Donc ça a été forcément très difficile. Déjà la rupture technologique, et en plus le personnel. Qu'allons-nous faire du personnel? Tout le monde n'était pas forcément adaptable, et c'était le gros souci de la société. Donc il a fallu faire des formations, beaucoup de formations, à tous les étages d'ailleurs, hein, moi le premier.
Alors c'est là qu'on va voir arriver des choses un petit peu qui nous amusent aujourd'hui. On voit arriver par exemple le télécopieur à grande diffusion et on voit autre chose. On voit arriver le compteur jaune. Qu'est-ce que le compteur jaune? C'est le compteur Linky. On l'étudie en quelle année? À peu près en quelle année? Ce compteur Linky, là.
Ah, ce compteur Linky, on a fait les études au début.
Il a un peu changé par rapport.
Oui, mais on l'a fait vers les années début 80. Donc, c'est vraiment une histoire ancienne. On avait 40 ans d'avance, à la rigueur.
Justement, c'est ce que je vais vous entendre dire. On avait Matra, à l'époque, avait 40 ans d'avance. C'est-à-dire, on installe aujourd'hui un relevage automatique, on peut dire, par téléphone, le fameux compteur Linky, qui a été étudié dans les années 80. Par cette entité de Matra, Châtelain, c'est quand même un petit peu phénoménal de voir qu'il nous a fallu 40 ans pour arriver à l'application. C'était quand même bon, un beau produit. Et il est certain que l'arrivée de Matra, vous le dites, n'est pas que la conséquence, surtout la modification de la technologie, mais va avoir des conséquences très lourdes sur l'emploi du noir.
Oui, alors évidemment, avec l'électronique, la main-d'œuvre était divisée par 4 ou 5, comme je l'ai dit. Ça posait d'énormes problèmes, parce qu'il fallait adapter le personnel pour essayer de garder le maximum de personnel possible. Mais malheureusement, plan de licenciement obligatoire, parce qu'on ne pouvait pas garder toute cette main-d'œuvre. Mais Picard Lebas, à l'époque, avant l'arrivée de Matra, n'avait pas pu développer de l'électronique parce qu'il n'en avait absolument pas les moyens. Il fallait des investissements considérables au niveau financier, au niveau ingénieur, et ça, on n'avait pas.
Alors, c'est un moment terrible pour une entreprise de se séparer de personnel qui n'a pas démérité, hein, mais qui ne correspond plus par son profil, par sa formation, aux besoins futurs de l'entreprise. Donc, on était pratiquement à 1000 personnes à peu près.
Et oui, tout à fait. Il y avait encore au moins 1000 personnes quand Matra est arrivé. Et on est descendu d'un seul coup avec des licenciements qui ont concerné à peu près 480 personnes. Donc c'est énorme.
Oui, il y a eu plusieurs plans de licenciements à suivre. Douloureux. Et donc, pour l'ensemble du personnel, même pour le personnel encadrant, parce que l'encadrement, contrairement à ce qu'on pourrait dire quelquefois, aime bien les gens avec qui il travaille. Okay. Et quand on lui demande pour des instances économiques de réduire la voilure et de faire des choix, c'est dramatique.
Tout à fait, c'est toujours très difficile quand vous avez du personnel depuis des années, vous avez l'habitude de travailler avec eux, et malheureusement, il n'y a pas de solution de reclassement.
Oui, alors, vous allez donc, on va avoir ces effectifs qui vont donc diminuer. En même temps, on va voir des produits nouveaux arriver. Par exemple, donc, on va avoir quelque chose de phénoménal à Châtelain. C'est le Radiocom 2000, le premier, on peut dire, c'est le premier téléphone portable, on peut dire, vraiment, avec une petite valise qui fait 3 kilos.
Oui, tout à fait. Alors j'ai eu l'honneur, si je peux dire, d'avoir les premiers radios télécoms en main et les fabriquer. Donc c'était une conception tout à fait différente, bien sûr. Beaucoup de tests et de moins en moins de main-d'œuvre pour la fabrication. Et puis après, il a fallu fabriquer les systèmes qui allaient avec, les radiocoms, et tout ça dans les années 87.
Oui, alors justement, quand on imagine que ces téléphones étaient vendus à l'époque, on va le mettre en euros, ça valait 5000 euros, un téléphone à l'époque. C'est extraordinaire, quoi. On dirait ça à quelqu'un aujourd'hui pour s'équiper d'acheter un téléphone à 5 000 €, mais il dirait qu'ils s'en foutent.
Oui, c'est pour ça qu'il y en avait très peu d'ailleurs qui étaient vendus, parce que le prix était absolument prohibitif. C'était pas possible.
Voilà. Alors derrière cela, évidemment, pour faire du Radiocom 2000, il fallait des relais. Et il a fallu fabriquer donc ces relais.
Alors, pour fabriquer ces relais, et alors, c'est là que les relais électromécaniques ont complètement disparu, plus de mécanique, et on est passé à la carte électronique avec des composants à implanter en grande quantité. Alors, des composants souvent très petits, donc ça posait des problèmes pour des personnes qui avaient des problèmes de vue, des problèmes d'agilité. Enfin, c'était assez compliqué quand même. Et puis, on avait tellement licencié de personnes qu'on n'avait presque plus les personnes pour le faire.
Mais justement, vous avez dirigé un sujet qui est intéressant parce que les gens imaginent qu'une carte électronique, d'abord, c'est quelque chose, donc un QI avec des composants qu'on met dessus. Et puis, presque on imaginerait quand on est néophyte qu'on prend un fer à souder et qu'on va souder chaque petit point. En réalité, ça ne se passait pas comme ça.
Non, ça ne se passait pas du tout comme ça parce que les composants, en plus, devenaient de plus en plus petits. Et à la fin, c'était tellement petit qu'on avait bien du mal à les voir.
Justement. Donc, et en plus, vous avez travaillé sur ce qu'on appelle donc aujourd'hui donc du multicouche. C'est-à-dire à l'époque, c'était quoi
Le multicouche, c'était comme un millefeuille, si on peut comparer ça au millefeuille, avec des couches de cuivre, avec des couches d'isolant, des couches de cuivre, des couches d'époxy pour être technique. Et on arrivait à empiler jusqu'à 16 couches. Donc, on avait une surface de cuivre supérieure en additionnant les couches à la surface de la carte.
Alors, justement, donc, c'est devenu de plus en plus donc technique. S'il y avait la moindre erreur, on peut dire quelque part, la carte était fichue. Alors.
C'était pratiquement irréparable.
Pratiquement irréparable.
Et de plus en plus, d'ailleurs, on ne pouvait plus les implanter physiquement par une personne humaine. On était obligé de faire appel aux machines de conception automatique.
Alors c'est vrai que ça avait été une révolution aussi comme en 1986, de voir ce Radiocom 2000 installé dans l'espace Matra, qui était aussi une nouvelle voiture. Donc on présentait à l'intérieur de l'espace, on présentait le fameux téléphone, hein, et donc tout le monde disait que ça va être la révolution. C'est vrai que c'était une révolution, parce que c'était le début, on peut dire, de la diffusion à grande vitesse là, du téléphone portable. Et donc, à un moment donné, Matra Communication a voulu aller chercher un petit peu des partenariats. Et puis donc, en 1994, il y a eu des choix qui ont été faits. Il y a eu une ouverture de marché, on peut dire. Et puis il est resté deux candidats qui étaient intéressés par Matra Communication, qui étaient les groupes Siemens et les groupes Nortel. Et le groupe Nortel est rentré dans la maison. D'abord, par la petite porte. Et puis après, ils ont agrandi la porte. Et ça s'est pas... Ça s'est passé comment, ce passage-là?
Ça a été accueilli d'une manière assez bizarre quand même, parce que quand on a vu une société anglo-saxonne arriver à Châteaudun, on s'est posé beaucoup de questions, bien sûr. Et puis, qui dit anglo-saxon, dit quand même société à bénéfice. Et puis, cette société est venue pour la radiotéléphonie, surtout, parce qu'ils avaient déjà ce qu'il fallait en téléphonie. Et c'était surtout la partie radiotéléphonique qui les intéressait. Et puis, Matra, à l'époque, avait la technicité, mais n'avait pas le débouché international, si je peux dire, pour vendre ses produits. Donc, ils pensaient, avec Nortel, faire ce groupement pour pouvoir s'étendre à l'international.
Alors, justement, à cette époque, le directeur du site de Châteaudun croyait avoir fait la conquête de l'Ouest. C'était absolument extraordinaire, le rêve américain. Et puis le rêve américain, malheureusement, comme souvent, il s'est donc estompé dans le temps. Et puis Nortel a revendu, et l'a revendu à Flextronic. Et puis Flextronic, un jour, a dit « Moi, vos affaires ne m'intéressent plus, on ne peut plus fabriquer. Eh bien, je vous dis au revoir. » Et ils sont parti en laissant sur le sol du Noix plusieurs centaines de personnes sur le carreau. Voilà, la triste histoire, on peut dire, de l'industrie téléphonique à Châteaudun.